Radio Django, La Rose des Vents.
Ce soir, La Rose des Vents reçoit pour son dernier volet sur la communauté équatorienne de Lausanne, deux associations de Lausanne engagées sur le terrain en Équateur, Daniel.
En effet, historiquement, l'Équateur se caractérise par de très hauts niveaux de pauvreté et d'inégalité sociale. Malgré différentes stratégies mises en place par le gouvernement, la lutte contre la pauvreté et l'accès aux droits sociaux restent un défi majeur en Équateur. En Suisse, diverses associations équatoriennes tentent modestement d'apporter leur contribution à ce problème de société.
Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Aïda Ortiz et Elisabeth Ponce. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes de l'association Vert Volunta... Voilà, mais dites-le mieux que moi.
Voluntariat des Équatoriens résidents en Suisse.
Eh bien voilà, avec l'accent, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Donc pour situer le décor, Vert est une organisation à but non lucratif. L'objectif de cette organisation, formée par des dames équatoriennes de Lausanne, et qui vise à apporter un peu d'aide aux communautés qui sont dans le plus grand besoin dans leur pays natal, donc l'Équateur. Nous avons également autour de la table Louis Loudena et Océane Guillemin. Bonsoir.
Voilà.
Bonsoir.
Hola, bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes, vous, de l'association Interculture, qui est active en Suisse. Et Interculture développe aussi des actions ponctuelles en Équateur. Quand on parle de pauvreté en Équateur, quelles sont les principales raisons et les principaux problèmes rencontrés sur le terrain, Elisabeth Ponce? Oui, d'ailleurs,
oui. Quand on parle de pauvreté en Équateur, nous parlons principalement des problèmes d'accès aux soins de logement, de nourriture, d'éducation et aussi le manque de l'eau potable.
À quels besoins répondent vos associations en Équateur, Madame Ponce?
Et comme disait Aïda, nous avons beaucoup de besoins. Et l'association BERS essaie de contribuer au niveau des appuis individuels, par exemple, pour les personnes qui ont besoin de matériel, soit éducatif, soit pour le problème de santé, au niveau de chirurgie, par exemple, etc. Ça sont des appuis surtout au niveau individuel, mais aussi nous apportons des aides au niveau communautaire, surtout en éducation.
Et que fait votre association exactement en Suisse pour créer des liens avec l'Équateur?
Pour créer des liens, bon, nous avons des personnes là-bas qui font partie de notre réseau. Et puis nous avons aussi des partenaires, des organisations de la société civile, des partenaires qui contribuent surtout au niveau des appuis que nous faisons à la communauté.
Est-ce que Interculture fonctionne sur la même base avec des partenariats avec l'Équateur?
Alors les partenaires en Équateur, on les a développés justement à la fin de cette année. Nous travaillons avec des travailleurs sociaux qui sont sur place en fait. Donc du coup, c'est des gens qui évaluent justement le problème là-bas sur place. C'est vrai que nous, on a envie d'aider, on a beaucoup envie de s'investir, mais on n'a pas les outils maintenant. Moi, ça fait 20 ans que je suis ici. Donc du coup, quelque part, j'ai perdu ça. Donc ces travailleurs sociaux là-bas, ils peuvent évaluer justement le problème.
Et en Équateur, à quel besoin est-ce que vous répondez exactement?
Donc justement, c'est la tâche de ces travailleurs sociaux qui travaillent avec nous d'évaluer les besoins. Donc là où on situe notre action, c'est vraiment dans des quartiers qu'on pourrait dire défavorisés en Équateur. Et vu que nous, on est ici en Suisse, le travail de ces travailleurs sociaux, c'est justement de faire du repérage dans certains quartiers, de voir quelles communautés ont besoin d'aide, quelles familles spécifiquement ont besoin d'aide et quelles institutions ont besoin d'aide qui ne reçoivent pas d'aide du gouvernement, par exemple des garderies. Donc on a une garderie maintenant en Équateur, donc qui n'est pas ponctuelle comme l'a annoncé Fabien avant, mais qui est donc constamment en marche. Donc ces besoins-là, justement, ils sont évalués par l'équipe qui nous font plus ou moins un budget. De quoi a besoin telle famille? Concrètement, combien ça coûte de le faire ou de l'acheter en Équateur? Et nous, en Suisse, on se charge de récolter les fonds.
Donc vous faites remonter les besoins depuis l'Équateur avec les équipes avec lesquelles vous travaillez sur place?
Oui, le but, c'est vraiment de donner du travail aussi aux gens de là-bas, c'est-à-dire de ne pas acheter les fournitures dans les grandes surfaces, mais toujours de faire le travail, que ce soit des réparations de bâtiments par des maçons locaux ou par des gens du quartier même, qui puissent du coup recevoir un petit salaire pour le travail qu'ils font, et du coup de faire vivre la communauté dans son ensemble.
Donc il s'agit d'un travail collectif.
Tout à fait.
L'Équateur est un pays très diversifié, tant sur le plan géographique que social et ethnique. Certaines populations sont-elles plus vulnérables que d'autres, Madame Ponce?
Oui, tout à fait. Par exemple, en Équateur, nous avons les populations, les indigènes, nous avons les afro-équatoriens, les métis et les blancs. Et si nous parlons par exemple de pauvreté, la moyenne au niveau national c'est de 23%, mais si nous parlons des Indiens, ça arrive jusqu'à 50% de cette population qui se trouve dans la situation de pauvreté, environ 35% des populations équatoriennes. Donc on peut observer qu'il y a vraiment une grande différence parmi ces populations.
Mais comment s'explique ces disparités en fonction des origines?
Et ça va être une longue histoire.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un tout petit bout de cette histoire?
Oui, en général, ce que nous avons observé, c'est que les populations indigènes, surtout, se trouvent dans des communautés qui sont surtout au niveau rural, et puis de difficile accès. Donc, même si le gouvernement a fait beaucoup son mieux pour dire, pour arriver à ces populations et pouvoir aussi offrir certains services, parfois c'est difficile parce que ce sont des populations dispersées et puis ce sont des populations où, au niveau géographique, c'est difficile d'accéder.
Est-ce que ce sont des populations qui s'identifient à l'Équateur en tant que telles ou qui revendiquent d'autres origines?
Et ça pourrait être un peu, bon, on peut dire, il y a un peu de tout. Il y a par exemple certaines populations qui nous savons que l'origine c'est du Nord ou de Bolivie par exemple. Il y a la population Salasaka, il y a la population des Imbabura, il y a la population, on peut dire, des Pansaleo, des origines, etc. Mais je pense que pour la plupart, il y a une langue qui est commune, que c'est le Quichua, par exemple, qui on parle au niveau de la région orientale, qui on parle au niveau de la région andine aussi. Et puis ça pourrait dire que ça aide à communiquer entre eux. Mais les origines sont différentes. C'est-à-dire, nous, le métis, on est un mélange de 3 ou 4 populations.
Et comment ça se passe alors avec ce métissage? Quelles sont finalement les populations plus vulnérables? Est-ce que ce sont plutôt les enfants ou les femmes?
Dans ce cas-là, en parlant des populations plus vulnérables, dans le cas, c'est toujours les enfants et les femmes. De toute façon, alors, il ne faut pas seulement parler...
Mais dans les différentes communautés, quand on pense aux Indiens, aux Métis, aux Créoles...
Alors, c'est les enfants et les Noirs, bien sûr, parce que le travail sera plus facilement trouvé, par exemple, dans la communauté noire, il sera plus facilement trouvé par les hommes que par les femmes. Ils auront plus facilement d'accès, justement, au travail. Après, ça dépend de la communauté indienne. On a des communautés indiennes en Équateur, comme au Tavalo, par exemple, que c'est une communauté qui est florissante, une communauté de laquelle il faut être fier, une communauté qui est connue partout dans le monde. Donc là, ni les femmes ni les enfants, ils sont défavorisés. Donc ça dépend vraiment, comme l'a dit Madame Ponce, de la situation géographique.
Mais quels sont les problèmes rencontrés par les enfants de manière générale en Équateur?
La scolarité, le fait qu'on a des enfants encore en Équateur qui travaillent. Donc c'est vrai que si tu vois des enfants encore qui travaillent dans la rue, des enfants encore qui, à l'âge de 4, 5, 6 ans, ils ne sont pas scolarisés. À l'âge de 10 ans, ils ne sont pas scolarisés, ils travaillent. C'est un énorme, énorme, énorme problème encore dans un pays avec un taux d'alphabétisation encore bas, mais qui...
Et avec votre association, est-ce que vous arrivez à faire une prise en charge des enfants, justement?
Alors, c'est justement le but de cette garderie. Il y a un constat qui a été fait dans ces quartiers, c'est que souvent, les enfants sont dans la rue avec leurs parents lorsqu'ils ne sont pas scolarisés. Et cette garderie répond justement à ce besoin, dans le sens où on essaye justement d'offrir à ces enfants un lieu où ils sont pris en charge, mais non seulement de manière ludique, mais également de manière éducative et préventive. Les différents besoins que mentionnait au début Madame Ortiz sont justement source ensuite de criminalité, c'est-à-dire quand on n'a pas ce qu'il nous faut, on va le voler. Et c'est justement là que commencent aussi à être nécessaires des mesures de prévention. Donc notre garderie accueille des enfants, pas seulement en âge de ce qu'on appellerait nous une garderie, c'est-à-dire avant l'école enfantine, mais vraiment des enfants simplement qui ne sont pas scolarisés et qui ont besoin d'un accompagnement éducatif et préventif.
Ce qui veut dire que les mères sont absentes. Et on pourrait se demander quelle est la situation des femmes en Équateur. Est-ce qu'elles sont confrontées à une forme de discrimination?
Ce que nous pouvons dire, c'est que les femmes, comme presque un peu partout en Amérique latine, même en Europe, il y a beaucoup de violence envers les femmes. Plus de 60% des femmes sont victimes de la violence domestique. Et puis aussi, si nous parlons encore de différences, les femmes indiennes sont plus affectées par ce phénomène. Donc vous pouvez trouver de la violence un peu partout. Et puis on dit qu'une des causes, la cause principale, c'est le machisme. Ça, c'est un phénomène, bon, on peut dire, socioculturel. C'est-à-dire...
Mais pourtant, il y a des féministes en Équateur. Il y a différents mouvements féministes qui sont en train de naître.
Ce sont très peu, comparativement.
Elles ont encore beaucoup de pain sur la planche.
Nous avons besoin de beaucoup plus.
Oui, ben on constate bien que de nombreuses associations équatoriennes de l'étranger se mobilisent pour agir en parallèle aux actions gouvernementales. Et puis, en tout cas, on vous souhaite plein de succès pour la suite.
Merci.
Et on remercie Aïda Ortiz et Elisabeth Ponce de l'association Vert d'être venues nous en parler ce soir. Et on remercie également Louis Loudena et Océane Guillemin de Interculture d'être venus sur le plateau de Radio Django. Et plein de succès pour la suite de vos activités sur le terrain équatorien.
Merci.
Merci.